à vous de voter.
En temps universel, 13h30 à Kinshasa. Afrique Midi, c'est avec vous Nicolas Brousse.
Bonjour Diane, bonjour tout le monde. Nous consacrerons une bonne partie de cette édition au conflit dans l'est de la RDC. Menace pour toute la région, dit le président du Burundi que nous entendrons. Nous serons en direct avec notre envoyé spécial à Kinshasa. Et puis nous entendrons également un député du Kasaï central qui était à la tête d'une manifestation à Kananga ce matin. Direction enfin Goma, capitale du Nord Kivu. À suivre également une condamnation historique pour une corruption à plusieurs millions d'euros en Ouganda. Une belle affiche en MMA avec une légende de ses arts martiaux mixtes, le Nigérian Israël. Adesanya ce soir. Et puis, Roga aux élites. Littéralement, le leader d'Extra Musica, star du Congo Brazzaville, se produit ce soir dans la salle de spectacle parisienne. Afrique Midi, le grand journal Afrique, bienvenue. On tourne ensemble la première page. Des milliers de manifestants ce matin à Kananga, le chef-lieu de la province du Kasaï central, dans l'est de la République démocratique du Congo. Des habitants, membres et cadres de la coalition au pouvoir, emmenés par le parti présidentiel, l'UDPS, ont manifesté ce matin donc pour exiger des sanctions contre le Rwanda, soutien du M23. À la tête du cortège, le député du parti présidentiel, John Kabeya, ancien gouverneur de cette province et actuel président du caucus des députés du Kasaï central, à la nationale.
La détermination était forte dans notre province du Kasaï central. Je me suis retrouvé devant plus de 20 000 personnes qui sont descendues sur terrain pour manifester leur mécontentement. Crier tout haut et montrer à la face du monde, condamner ce qui se passe à l'est de notre pays pour que la communauté internationale puisse prendre des mesures sérieuses par rapport à les agresseurs. Et Rwanda derrière M23, ça fait pratiquement 31 ans et cette population souffre. Trop c'est trop. On en a marre. Dernièrement, il y a la ville de Goma qui est tombé. Il y a des enlèvements, il y a même des cadres de l'UDPS, même certains combattants de l'UDPS qui sont enlevés nuitamment par les Rwandais et les mêmes M23. Nous devons être tous derrière les chefs de l'État, derrière le FRDC et Ouazolendo. J'ai demandé à notre population de se faire enrôler massivement dans l'armée. La jeunesse est disponible. Et des trois, j'ai demandé à notre peuple d'être unis. Il y a même les membres des partis politiques de l'opposition qui ont marché avec nous aujourd'hui. C'est-à-dire la question de l'Est ne divise personne. Et nous sommes tentés de nous battre jour et nuit jusqu'au moment où nous allons foutre ces gens-là dehors.
Des propos recueillis par Pascal Moulégua. La situation dans l'est de la RDC qui continue également de faire réagir à l'international. La SADC réaffirme son engagement en faveur d'une solution durable et pacifique. Les leaders de la région étaient réunis hier en sommet extraordinaire à Harare au Zimbabwe. L'organisation régionale a une mission de maintien de paix dans la région, la SAMIEI-DRC, qui a perdu plusieurs hommes cette semaine dans les combats contre les rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise près de Goma. Alexandre Bonjour, vous êtes notre envoyé spécial en direct de Kinshasa. Hier, les leaders ont appelé à la tenue d'un sommet conjoint immédiat de la SADC et de la communauté de l'Afrique de l'Est afin de réfléchir à la manière de régler la situation sécuritaire en RDC.
Oui, dans son communiqué final, eh bien, la SADC note avec inquiétude les attaques récentes du M23 et, précise le communiqué, des RDF, les forces armées rwandaises, contre les troupes congolaises, les troupes de la SADC et les populations civiles. Elle condamne également les attaques des rebelles du M23 et des RDF sur les troupes de la SADC. Une première pour l'organisation régionale qui reconnaît implicitement la présence de soldats rwandais sur le terrain, à défaut d'un appel à retirer les soldats rwandais de l'est du Congo, comme le souhaitait Kinshasa. En revanche, l'organisation reconnaît que les objectifs de sa mission de maintien de la paix ne sont pas encore atteints, appelle les pays contributeurs à renforcer leurs effectifs afin de garantir la sécurité des troupes sur le terrain. L'organisation régionale a également réaffirmé son soutien aux efforts diplomatiques et, vous le disiez, appelé à un sommet conjoint immédiat de la SADC et de la communauté d'Afrique de l'Est, l'AEC, afin de réfléchir à la manière de régler la situation sécuritaire en République démocratique du Congo.
Alexandra Branjon, en direct de Kinshasa. Diplomatie encore, le président du Burundi, frontalier de la RDC et du Rwanda, redoute que ce conflit ne se généralise et embrase toute la région. Il s'exprimait hier devant le corps diplomatique accrédité au Burundi. Évariste Ndayishimiye appelle la communauté internationale, toute la communauté, à prendre ce risque au sérieux.
Vous voyez ce qui se passe ici, tout près de chez nous. Pourquoi ce silence? Est-ce que la communauté internationale ne voit pas les conséquences? Je vous dis que si ça continue comme ça, la guerre risque d'être généralisée dans la région. Si le Rwanda continue, si la communauté internationale le laisse faire, en tout cas, ici au Burundi, on ne va pas se laisser faire. J'appelle encore une fois la communauté internationale à prendre cela au sérieux. Nous avons une menace dans la région. Ce n'est pas le Burundi seulement. La Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, c'est à toute la région, c'est une menace. Si l'Est du Congo n'a pas la paix, la région n'a pas de paix.
Déclaration du président burundais récupérée par Florence Maurice. Direction Goma, capitale du Nord Kivu, dont les rues portent les stigmates des récents affrontements entre l'armée congolaise et ses alliés et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Des réserves d'aide alimentaire ont été pillées à travers toute la ville, mettant à mal les capacités des organisations humanitaires déjà débordées, Elisa Fabian.
Des détritus calcinés jonchent le sol, les portes ont été arrachées et les réserves de médicaments entièrement vidées. L'entrepôt de l'ONG Handicap International ressemble à une coquille vide. À l'intérieur, des jeunes se bousculent pour arracher quelques bouts de métal à la structure éventrée.
Mais
c'est la faim qui pousse les gens à faire ça. Certains ont mis la main sur des sacs de farine ou d'autres provisions qu'ils ont vite ramenés chez eux pour se nourrir.
À Handicap International, comme dans les autres ONG, on estime que ces pillages pourraient encore accélérer la crise humanitaire à Goma. Et Raston Ombeni travaille pour l'organisation.
Et on est arrivé, on a trouvé tout est vandalisé et tout a été pris, d'autres choses, des documentations brûlées, mais des effets pillés par des personnes non encore identifiées pour l'instant. On stockait pas mal de choses, notamment des vivres. Il y avait des intramèdes pour certains partenaires qui sont dans les volets médicaux. De manière ramassée, on était à plus de 45 tonnes de matériel dedans. Et ça va aussi diminuer leur fréquence d'intervention, d'autant plus que cet entrepôt-là, c'était un backup.
En début de semaine, alors que les combats faisaient toujours rage, plusieurs commerces ont aussi été la cible de pillages à Goma et un entrepôt du Programme alimentaire mondial a été vidé.
Et le chef de l'agence sanitaire de l'Union africaine estime que la situation à Goma constitue une véritable urgence de santé publique. Goma devenu l'épicentre propageant le Mpox. Pour Jean Kaseya, toujours selon ses termes, les conditions actuelles extrêmes combinées à l'insécurité et au déplacement massif de population ont alimenté la mutation du virus. Dans un communiqué publié en cette fin de semaine, le Conseil congolais supérieur de l'audiovisuel et de la communication a notamment rappelé l'obligation faite aux médias nationaux et internationaux, RFI est donc concerné, de s'abstenir de diffuser des informations sur la guerre de l'Est sans se référer aux sources officielles. L'autorité de régulation des médias demande également aux journalistes de ne pas donner la parole au M23, à l'AFC, l'un de ses alliés, et à leurs supplétifs qui font l'apologie de la rébellion selon les termes officiels. Le Comité pour la protection des journalistes, le CPJ, organisation de défense de la liberté de la presse basée aux États-Unis, s'inquiète de ces tentatives de contrôle de l'information dans l'Est de la RDC. Je cite les termes du CPJ. Écoutez, Angela Quintal, elle est responsable du programme Afrique de cette organisation.
Évidemment, avec l'avancée du M23, la pression augmente. Nous avons bien vu que l'autorité de régulation des médias a mis en garde les médias internationaux qui risquent la suspension en cas de faux pas. Mais il ne faut pas oublier non plus le sort des journalistes congolais sur place qui font face à des intimidations. Certains reçoivent même des menaces de mort et celles-ci viennent de tous les côtés. Donc le résultat, ce n'est pas simplement la censure, mais aussi l'auto-censure. C'est évidemment inquiétant car il est essentiel que l'information circule librement, particulièrement dans une situation de crise. Et ça ne s'applique pas qu'à la RDC. Partout dans le monde, il y a des gouvernements qui essayent de contrôler le récit qui est fait de certains événements. Et il n'y a pas que les médias qui sont perdants à ce jeu-là. Il y a aussi le grand public parce que les gens ont besoin de savoir ce qu'il se passe. Ce sont des informations qui sont d'intérêt public.
Voilà pour ce dossier. D'autres informations disponibles à toute heure sur notre site internet rfi.fr. La guerre civile au Soudan, 40 morts dans un bombardement ce samedi contre un marché à Omdurman dans l'agglomération de Khartoum. On déplore également de nombreux blessés. Après cette attaque attribuée au FSR, des paramilitaires en guerre contre l'armée officielle depuis avril 2023. Un conflit qui a déjà tué des dizaines de milliers de personnes et en a déraciné plus de 12 millions. En Guinée, encore beaucoup de zones d'ombre, de mois, jour pour jour, après la tragédie du stade du 3 avril de Nzéroké. 56 morts officiellement, 135 selon un collectif d'ONG. Cela s'est passé lors de la finale d'un tournoi en soutien au président de la transition, Mamadi Doumbouya. Cette semaine, le Premier ministre Baouri a reçu un rapport de la commission d'enquête administrative, mais qui n'a pas été rendu public. Les autorités que nous avons sollicitées n'ont pas répondu à nos demandes d'interview. Alseni Sall, porte-parole de l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, demande de la transparence. Il a été joint par Dirouga Azizbald.
On parle de plus de 100 morts quand même dans un stade. Il est important quand même que, quel que soit ce qui s'est passé, que des responsabilités soient soutenues pour qu'on sache qui a fait quoi et pour permettre aux familles quand même de faire leur deuil.
Et là, actuellement, vous ne pouvez ni confirmer ni infirmer qu'il y a eu une enquête, qu'elle soit administrative ou judiciaire, qui a été ouverte?
Aucunement. On n'a aucune visibilité. Comme je l'ai dit, depuis les annonces et du départ, il n'y a aucune communication du côté du gouvernement. Il n'y a aucune visibilité par rapport à cette situation. Nous demandons à ce que des enquêtes soient faites. Nous demandons aujourd'hui une communication officielle des autorités pour soutenir, en tout cas, les Guinéens, les familles des victimes par rapport à l'évolution de la procédure d'enquête qui avait été annoncée par les autorités à la suite de ces événements.
Au Cameroun, après ceux des chefs traditionnels il y a quelques jours, Paul Biya engrange de nouveaux soutiens pour une éventuelle candidature à l'élection présidentielle d'octobre prochain. L'actuel chef de l'État est le candidat naturel du RDPC au pouvoir, selon les textes du parti, mais sa possible, sinon probable candidature est décriée par certains, dont des dignitaires religieux. Elle n'est pas encore officialisée. En attendant, hier, trois formations politiques de l'opposition ont annoncé leur ralliement. Polycarpe Samba, vous êtes à Yaoundé. Ces trois formations sont l'UPC, le MDR, mais aussi le PCRN de Cabral Libi.
Les différentes délégations reçues l'une après l'autre par Paula Tanganji, le ministre de l'administration territoriale, étaient toutes porteuses du même message, le soutien à la candidature du président Paul Biya. Le MDR, dont le fief électoral se situe dans l'extrême nord, a souligné que le choix porté sur Paul Biya était un choix d'évidence, son président Daïssala Tigana.
Le MDR, c'était une évidence. Allié depuis fort longtemps, nous sommes même le premier allié du RDPC. Nous avons, comme vous le savez tous, toujours soutenu le président Paul Biya.
Maire élu du PCRN, parti balloté entre deux factions et dont il est aujourd'hui exclu, Jean-Jacques Mbongol III a dit par ce soutien vouloir tourner le dos à des décennies d'opposition stérile.
Nous, particulièrement dans l'Union Ekele, ça fait 40 ans nous sommes dans l'opposition. Une opposition stérile qui ne nous apporte rien. Il est peut-être temps de comprendre qu'il faut s'allier avec le président de la République, le chef de l'État, le père de la nation.
Robert Kona, le fondateur du PCRN, qu'une profonde brouille oppose à l'actuel président du parti, Cabral Libi, candidat déclaré à cette élection présidentielle, a lui aussi fait le choix du candidat naturel du RDPC. Au nom a-t-il avancé que Paul Biya est l'assurance tout risque pour le Cameroun. Un soutien qui jette un sérieux coup de froid sur la candidature de Cabral Libi, tout comme à l'UPC où Bapo Lepot, qui conduisait la délégation du parti, a dit que Paul Biya est la réincarnation du nationaliste Ruben Oumyobé, leader historique et fondateur de l'UPC. Et ce, en dépit des autres annonces de candidature déjà exprimées au sein du même parti. Polycarpe Samba, Yaoundé, RFI.
À 12h43, temps universel, c'est une première. Trafigura, le géant du négoce, a été condamné hier par la justice pénale suisse pour corruption d'agents publics étrangers dans le cadre d'un contrat de fourniture d'affrètement et de soutage de navires en Angola entre 2009 et 2011. Amende de 3 millions de dollars pour cette société de trading. Son ex numéro 2, Mike Wainwright, est condamné à 32 mois de prison, dont un en ferme. Et le fonctionnaire angolais Paul Gouveia Jr. écope de 36 mois de prison, dont 14 fermes, pour avoir accepté, il faut dire, des versements de plus de 5 millions de dollars. C'est un verdict tout simplement historique, estime Adria Budricarbo. Il est spécialiste des matières premières de l'ONG Public Eye.
C'est un message qui dit aux traders, désormais votre entreprise n'est plus en mesure de vous protéger contre la justice suisse en cas d'acte illicite. La justice suisse est prête à venir vous chercher. Jusqu'à présent, c'était des solutions négociées, donc l'entreprise reconnaissait sa culpabilité en échange d'une amende, et puis surtout, donc, on n'avait pas l'occasion d'étudier, d'analyser les preuves devant un parterre de journalistes, du grand public. Donc, avec ce procès, on est véritablement entré dans la cuisine interne de Trafigura. Ce qu'il faudrait, c'est que la Suisse adopte des amendes réellement dissuasives, parce que Trafigura a été condamné à 3 millions d'amendes, et puis également à rendre le profit illicite, donc 145 millions. Pour une société qui a fait des milliards de profits durant les 3 ou 4 dernières années, c'est pas grand-chose. Par contre, au niveau réputationnel, ça sera évidemment compliqué pour Trafigura. On peut imaginer qu'il y aura beaucoup de questions de leurs banquiers ces prochains temps. Et puis surtout à l'interne, auprès des personnes physiques. Le signal est également extrêmement fort. Vous pouvez terminer derrière les barreaux pour des actes de corruption commis au nom de trafic durable.
Spécialiste des matières premières de l'ONG Public Eye, au micro et au téléphone de Claire Fage, l'avocate de l'ancien dirigeant de Trafigura, compte faire appel. C'est l'une des plus belles affiches concernant les arts martiaux mixtes. Nassourdin Imavov, 28 ans, est à l'affiche du combat principal de l'UFC en Arabie Saoudite ce samedi soir, face à une légende de l'organisation, le Nigérian Israel Adesanya, ancien champion chez les moins de 84 kilos. Un affrontement 5 étoiles pour passer un cap et pour le Français devenir candidat au titre de la plus grande organisation mondiale de MMA. Mais avant le cap, il faudra franchir une sacrée montagne, Sofiane Amazian.
Calme, froid et méthodique, Nassourdin Imavov n'est pas du genre à s'épancher sur ses adversaires. Mais à l'évocation du nom d'Israël Adesanya, l'un des champions les plus dominants de ces dernières années, c'est d'abord le respect qui prédomine.
Il a défendu son titre, je crois, 8 fois, un truc comme ça. Donc on peut dire que c'est une légende de ce sport. Et je vous laisse imaginer la motivation que j'ai en ce moment.
Mais Nassourdin Imavov n'a pas à rougir de son parcours. 3 victoires de suite en 2024 face à des adversaires coriaces pour grimper au 5e rang du classement. Une vraie menace pour Adesanya qui, malgré la pression liée à ses 2 défaites de suite, n'en perd pas son sens de l'humour.
Il y a ce gars qui vient de gagner ce combat en France. J'ai oublié son nom, mais il n'était pas tout en haut de la carte. Ah oui, Imanov. Ça peut être un bon combat, mais il n'a rien prouvé. Il a juste battu Brendan Allen.
Derrière la blague, beaucoup de respect pour le combattant français, ce qui détonne avec le caractère plus sulfureux du natif de Lagos. Son adversaire l'a bien noté.
C'est un combattant de haut niveau, j'aurais fait exactement pareil à sa place. Hein. Je pense que j'ai mérité d'être là. J'ai fait 3 combats, 3 victoires en 7 mois contre 3 top 10. Il est conscient de tout ça.
Pas forcément vu comme favori, Nassourdin Imavov a l'occasion à Riyad de réaliser le plus grand exploit du MMA français, battre une légende de l'UFC.
Sofiane Amazian nous présentait ce combat entre Imavov et Adesanya à suivre aux alentours de 20h temps universel du côté de Riyad. Si vous n'êtes pas trop violent, c'est la musique adoucissant les mœurs, c'est bien connu. Rendez-vous avec une star du Congo-Brazzaville ce soir au Zénith de Paris. Roga Roga, leader du mythique orchestre Extra Musica, s'offre la grande salle parisienne ce soir, Edmond Salaka.
What's up, Nigeria?
Plus de 30 ans de carrière déjà avec le groupe Extra Musica ou en solo, Roga Roga a collectionné les tubes durant toutes ces années. Ce samedi soir au Zénith de Paris, l'artiste de 50 ans interprétera la plupart de ses succès comme celui-ci. Bokoko, une chanson dont Roga Roga affirme qu'elle lui est venue durant son sommeil. C'est ce qu'il a expliqué mardi dernier sur RFI dans l'émission Couleur Tropicale.
J'ai dormi et j'ai rêvé de ce son-là. Il a fallu que je puisse enregistrer ça. Quand je me suis réveillé, et j'ai pris mon portable, j'ai enregistré. Au fait, les ancêtres, hein, je peux dire, les ancêtres sont venus me donner un son. Et à travers la chanson Bokoko, on confirme que des êtres invisibles existent.
Roga Roga a débuté sa carrière dans une chorale catholique de Brazzaville avant de fonder son propre groupe. Après avoir réussi à s'imposer dans les 2 Congos, cet artiste, à qui certains reprochent sa proximité avec le pouvoir, est aujourd'hui l'une des légendes vivantes de la musique africaine.
C'est trop tard, je suis déjà parti. Je resterai toujours plus haut. Ma passion est collée si les plus haut. Roga, Roga, Roga.
On vous a laissé quelques secondes de musique pour un avant-goût de ce qui vous attend peut-être si vous avez la chance d'être à Paris et d'avoir des billets pour le concert de ce soir au Zénith de Paris. C'était Edmond Salaka. Et à Paris, il est pile 13h49.
Afrique Midi. Nicolas Brousse.
Samedi 1er février, merci de rester avec nous pour la partie magazine avec dans un instant nos confrères de Jeune Afrique. Ils reviennent bien sûr sur la situation en RDC. Et puis la semaine de notre éditorialiste Jean-Baptiste Placa consacrée à une initiative du président français envers le Cameroun. La situation dans l'Est de la République démocratique du Congo est donc évidemment à la une de Jeune Afrique. François Soudan, son directeur de la rédaction, répond aux questions de Catherine Poté.
François Soudan, bonjour.
Bonjour Catherine.
Mercredi, le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, a dénoncé l'inaction de la communauté internationale face à l'offensive du M23 et de l'armée rwandaise, faisant ainsi part d'une certaine frustration.
Dans sa logique, on peut le comprendre, hein, Catherine, dans la mesure où ça fait longtemps que Kinshasa exige de la communauté internationale qu'elle ne se contente plus de demander le désarmement du M23 et le retrait des troupes rwandaises, mais qu'elle sanctionne directement le régime de Kigali. Cette demande de retrait de la part des Européens, des Américains, du secrétaire général de l'ONU, elle n'a en effet rien de nouveau, d'autant plus que contrairement à ce qu'on a dit, répété, Paul Kagame n'a jamais formellement nié la présence de ses troupes sur le territoire congolais. Je me souviens lui avoir posé directement la question, Catherine, il y a à peu près un an, et sa réponse avait été, je pense, assez claire. Si nos forces étaient réellement présentes en RDC, demandez-vous pourquoi elles le seraient. Alors on peut donc entendre la frustration exprimée par le président Tshisekedi, laquelle semble d'ailleurs avoir eu un certain effet sur l'attitude des pays européens à l'égard de ce conflit. Cela dit, deux remarques personnelles, Catherine. D'abord, le cynisme des relations internationales est ainsi fait que l'on est d'autant plus soutenu que l'on sait se défendre soi-même. Or, de ce point de vue, il y a eu tout au moins jusqu'ici un fossé entre le comportement de l'armée congolaise sur le terrain et les déclarations de ses chefs. Ensuite, et je sais que cette opinion personnelle n'est pas celle du gouvernement congolais, le règlement d'un conflit, même si on en est la victime, passe inéluctablement par des négociations. Et ces dernières impliquent que le M23 soit reconnu pour ce qu'il est, un groupe rebelle soutenu par le Rwanda, certes, mais composé de citoyens congolais.
Et l'ONU, François Soudan, ne cesse de faire part de son inquiétude face à la situation dans l'est de la RDC, alors que le M23 pourrait tenter de poursuivre son offensive.
Alors, le M23, c'est la composante majeure dominante d'une coalition politico-militaire qui s'appelle l'Alliance Fleuve Congo, et qui est, de manière assez claire, à répéter tout à fait récemment son objectif, qui va bien au-delà de la prise de Goma, ce qui signifie, Catherine, que l'ouverture d'une négociation directe avec le pouvoir congolais, qui était jusqu'ici la revendication sine qua non des rebelles et de leurs protecteurs rwandais, n'est apparemment plus considérée comme tout à fait d'actualité. La suite logique de cette posture, et ce serait donc, mais c'est ce que redoute explicitement le secrétaire général de l'ONU, de poursuivre effectivement l'offensive en direction du sud Kivu et au-delà. Cela dit, Catherine, rien ne prouve que cet objectif final soit réellement celui du Rwanda, sur lequel les pressions de la communauté internationale, qui sont déjà vives, ne pourront dans cette hypothèse que s'accentuer. Il faudra aussi que l'AFC et le M23 démontrent leur capacité à gérer, administrer Goma, ce qui n'est pas acquis. Enfin, le président Tshisekedi a annoncé une contre-offensive, je cite, « vigoureuse ». Il faudra voir ce que ça donne.
Dernier point, François Soudan, que sait-on de la réaction, des sentiments de la population à Goma ?
Alors, il y a beaucoup d'images qui ont circulé sur les réseaux sociaux, censées démontrer un accueil, disons, indifférent, voire bienveillant d'une partie de la population de Goma à l'égard des troupes rebelles, ce qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler certaines images de l'avancée de la FDL en 1997. Cela dit, il faut toujours se méfier de ce type de démonstrations qui peuvent d'ailleurs tout à fait être organisées. On a affaire à une population épuisée, traumatisée par la guerre et qui n'aspire qu'à la paix d'où qu'elle vienne. Elle ne signifie donc pas adhésion, même si, il faut le reconnaître, les Gomatraciens supportaient difficilement la surmilitarisation de leur ville, où stationnaient des milliers de soldats congolais, des miliciens Wazalendo, des rebelles rwandais, des FDLR, des contingents burundais, sud-africains, des mercenaires, etc. Avec tout ce que cette cohabitation, cette concentration implique vis-à-vis des populations civiles, avoir fait de Goma un hub aussi disparate d'hommes en armes s'est avéré être une erreur stratégique, mais aussi peut-être psychologique, Catherine.
Merci François Soudan. La situation en RDC à retrouver bien sûr sur jeuneafrique.com.
François Soudan, le directeur de la rédaction de JA, avec Catherine Poté des RFI. Il est 12h53 en temps universel. Dans 7 minutes, un nouveau journal sur la radio du monde avec à la une ce nouvel épisode de l'échange d'otages contre prisonniers entre Israël et le Hamas palestinien. Trois Israéliens ont retrouvé la liberté après plus de 15 mois retenus en otage. 183 détenus palestiniens sont eux sortis des prisons israéliennes. Nous reviendrons également sur DeepSeek, le nouveau géant chinois de l'intelligence artificielle. Avec son robot de conversation, il représente une menace. C'est le constat de plusieurs pays menaçant en matière de sécurité et de protection des données. Taïwan l'interdit carrément à ses fonctionnaires. C'est donc dans le prochain journal, dans un peu plus de 5 minutes maintenant. Ce qui nous laisse le temps d'accueillir notre éditorialiste. Bonjour Jean-Baptiste Placa.
Bonjour Nicolas Brousse.
À son tour, Paul Biya s'est vu remettre cette semaine le rapport des chercheurs sur le rôle et l'engagement de la France contre les mouvements indépendantistes et d'opposition du Cameroun de 1945 à 1971. Jean-Baptiste, Emmanuel Macron pourrait-il, avec cette quête historique qu'il a lancée, espérer se rallier les opinions africaines ?
Cette initiative dénote un courage politique qui aurait pu lui valoir en effet l'indulgence d'une Afrique scrupuleuse sur les crimes et violences de l'ère coloniale. Mais certains héritiers politiques de Ruben Niobe contestent à la France le droit d'initier un tel projet, car pour eux, elle est le bourreau. Au-delà des réserves de certains Camerounais, c'est Emmanuel Macron lui-même qui altère l'impact de son initiative, comme avec l'Algérie, avec le Rwanda ou même le massacre de Tiaroy, chaque fois sans recevoir en retour la gratitude espérée. Probablement parce que nul ne comprend pourquoi certains, et par exemple pas Madagascar, où l'on a chiffré à près de 90 000 morts la répression de la révolte de 1947. Les courages parcellaires n'ont jamais remplacé une politique. Alors qu'il s'achemine vers la fin de son second mandat, rien ne laisse espérer qu'Emmanuel Macron aura les moyens d'engager et de faire aboutir d'autres initiatives similaires partout où la violence coloniale a laissé de vivre en cœur. Il s'est parfois contenté de faire plaisir à tel ou tel pouvoir dans quelques pays, oubliant de marquer son temps avec une politique valable pour tous. Il peut donc difficilement espérer voir l'histoire le retenir comme le président qui aura vidé les contentieux coloniaux de la France.
Le président français qui ne manquait pourtant pas de volonté vis-à-vis de l'Afrique.
Entre Emmanuel Macron et l'Afrique, ça aura été un perpétuel malentendu, avec certes quelques initiatives dont aucun de ses prédécesseurs n'avait eu le courage, mais par les insuffisances de sa méthode, lui-même anéantissait l'impact de ses mesures. Ainsi, de la restitution des œuvres d'art pillées à certains peuples durant la colonisation et dont quelques-uns attendent toujours leur part. Ainsi du démantèlement de gré ou de force des bases militaires, de la suppression du compte d'opération des banques centrales de la zone franc auprès du Trésor français et de bien d'autres mesures courageuses inédites depuis la fin de la colonisation. Ces audaces éparses ne lui vaudront pas la sympathie des peuples africains tant qu'elles ne seront pas scellées par une politique claire et durable.
En somme, Jean-Baptiste, la France ne peut pas espérer la compréhension de la jeunesse africaine en traitant séparément la violence coloniale.
Tous les cas particuliers s'inscrivaient dans une politique globale. D'ailleurs, certains acteurs coloniaux, pour avoir fait la preuve de leur brutalité dans une colonie, étaient souvent envoyés sévir dans d'autres. L'histoire des peuples africains est bien trop imbriquée pour espérer la traiter efficacement en pièces détachées. Savez-vous, par exemple, que l'officier français qui orchestra le coup d'État qui a coûté la vie à Sylvanus Olympio en 1963 au Togo était auparavant un acteur central de la répression des maquis de l'UPC au Cameroun? Se rappelle-t-on que les soldats à l'origine de ce putsch sanglant revenaient d'Algérie après les accords d'Évian? Sait-on seulement que la rancœur de ces soldats venait du refus de Sylvanus Olympio de les intégrer dans l'embryon d'armée du Togo sous prétexte qu'ils étaient partis d'eux-mêmes s'enrôler volontairement dans l'armée française à Ouida, au Bénin, pour combattre les Algériens qui se battaient alors pour leur indépendance pendant que les Togolais, eux, luttaient pour leur propre indépendance. Chaque peuple aspire à comprendre les conditions déterminantes dans lesquelles s'est noué son destin. L'enjeu pour la France est d'inspirer durablement confiance à des peuples héréditairement dans le doute quant à sa sincérité. Cela suppose une politique qui ne varie pas au gré des circonstances et des rapports que le chef de l'État français peut entretenir avec tel ou tel de ses homologues. Bref, une politique qui survive au temps et aux hommes.
La semaine de Jean-Baptiste Placa à retrouver quand vous le voulez sur RFI.fr. Alors d'habitude, le samedi, dans Afrique Midi, on écoute un mot, une histoire, la chronique de Lucie Boutlou. Mais comme on est en famille, je ne vous cache rien, on n'est pas en avance. Il nous reste 30 secondes pour se dire au revoir. On va être donc bien poli. C'est la fin de cette édition d'Afrique Midi, mise en onde par Alice Ménard, rédaction en chef Karine Franck avec Pierre Vallée. À suivre, le journal international en français ou 30 minutes d'information en full day, si vous êtes nous écoutez en Afrique de l'Ouest ou une demi-heure d'infos en portugais si vous êtes en Afrique lusophone. Et pour les fans de la chronique de Lucie Boutelou, elle se retrouve bien sûr sur RFI.fr et notre application RFI Pure Radio. Dans 30 secondes donc, pas plus, le retour de l'info. Merci d'écouter RFI.
Écoutez RFI en direct et en podcast sur l'application RFI Pure Radio.
Conçue comme une plateforme d'écoute, Pure Radio offre un accès à tous les contenus de RFI en français et dans 16 autres langues. Elle vous permet de rester au plus proche de l'actualité et de retrouver facilement les podcasts de vos émissions préférées. Vous pouvez aussi télécharger un podcast pour le réécouter, même hors connexion.
Avec son appli Pure Radio,
RFI est toujours avec vous.
Toujours avec vous.